Merci de nous avoir suivis.
Vroom, vroom, quelque chose.
À la prose, vroom, vroom.
Vroom, vroom.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christophe Paco, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bonjour Christelle.
Bonjour Christophe.
Ravi de vous retrouver jusqu'à 14h pour RTL Midi. RTL Midi, vous le savez, c'est votre émission. Juste après votre journal, vous aurez la parole en composant, comme chaque jour, le 32-10, le 3-2-1-0. Et commenter par exemple la suite de la crise à l'OM avec l'éviction officielle ce matin de Michel, l'entraîneur espagnol. À 12h50, notre invité sera le secrétaire d'État au sport. Il nous donnera son sentiment sur ce grand ménage marseillais. Thierry Braillard, qui vient ce matin de recevoir un nouveau rapport d'ailleurs sur le sport professionnel avec plusieurs préconisations comme le retour des boissons alcoolisées dans les enceintes sportives, dans nos bons vieux stades. Alors l'avenir de l'OM, la petite bière bien fraîche à la mi-temps avec modération, qu'en pensez-vous? 32-10, 3-2-1-0. Et puis, juste après 13h, venez évoquer avec nous votre comportement volant. Comme l'a dit quelqu'un de célèbre, ça va mieux selon une enquête d'AXA Prévention, même si beaucoup d'entre vous ne sont pas totalement en sécurité sur les routes secondaires ou encore en centre-ville, où là, les limitations de vitesse sont loin d'être respectées, tout comme votre rapport, visiblement, avec votre téléphone en voiture. Vos questions, vos réflexions, vos expériences, venez nous rejoindre tout à l'heure sur le 3210. Le responsable de cette enquête sur votre comportement au volant, c'est Éric Lemaire qui l'a réalisé. Il sera avec nous, c'est le président d'AXA Prévention.
Le gouvernement sous le double feu de la CGT et du MEDEF, Philippe Martinez soutient une affiche anti-flic en disant qu'il montre surtout du doigt le donneur d'ordre. Le ministre de l'Intérieur saura apprécier. Pierre Gattaz, lui, menace de quitter la table des négociations sur l'assurance chômage car il ne reconnaît plus la loi El Khomri. Dans RTL Midi aussi, Nicolas Sarkozy va-t-il devoir renoncer à ses privilèges d'ancien président s'il devient candidat pour 2017? Ses nombreux avantages coûtent plus de 3 millions d'euros aux contribuables chaque année. Un contrôle continu à la fac à la place des bons vieux partiels, un système plus lourd à mettre en place, mais qui permettrait d'éviter le bachotage. C'est le retour d'un ennemi invisible, les pollens commencent à sévir dans l'est de la France et en Île-de-France. Les charmes et les bouleaux sont de faux amis. Nous attendons vos témoignages au 3210 et nous évoquerons les traitements les plus efficaces. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour.
En deux mots, plein soleil.
Exactement, plein soleil, j'ai les images satellites sous les yeux, effectivement, là du grand soleil partout, même souvent un ciel tout bleu, alors quelques exceptions, un petit voile nuageux qui remonte sur les Pyrénées. Puis surtout lors de la Seine, là c'est vrai qu'on a des passages nuageux un petit peu plus nombreux, mais ça n'empêchera pas le soleil de se montrer. Et surtout, il n'y aura aucune conséquence, pas de précipitation. Alors avec ce soleil omniprésent, bien les températures sont en hausse par rapport à hier, quasiment de saison. 14 à 18 degrés au moins dans la moitié nord, 17 à Paris, on ira même jusqu'à 19 degrés à Nantes et 20 à 23 degrés dans le sud, 23 par exemple du côté de Toulouse.
Et la question du jour sur RTL.fr, faut-il remplacer les examens par un contrôle continu à la fac? Pour l'instant, vous êtes 52% à répondre oui et 38% à nous dire que non. Alors on attend vos réactions bien sûr au 3210 et sur le Twitter de l'émission, le hashtag RTL Midi.
RTL Midi.
Cette fois, c'est vraiment la fin d'une époque à l'OM. 6 jours après avoir annoncé la vente du club, Margarita Louis-Dreyfus continue le grand ménage. La défaite face à Monaco a-t-elle été celle de trop? Michel, l'entraîneur, est viré. Jean-Louis Pacul, vous êtes à la commanderie pour RTL et d'après vos informations, il l'a su hier soir.
Oui, il l'a su hier soir et c'est Franck Passy, son adjoint français, qui l'a informé qu'il était suspendu de ses fonctions en attendant son entretien préalable au licenciement pour faute grave, parce que bien entendu l'OM ne veut pas lui payer l'année de contrat qui lui reste. Alors, la direction reproche à Michel son comportement ces dernières semaines, sa réponse aux critiques publiques de Basile Boli, mais surtout les résultats, 10 matchs consécutifs sans victoire, quelques défaites cinglantes, on se souvient du 5-2 encaissé contre Rennes, de la défaite à Monaco et entre-temps de match nul contre Bordeaux, un match nul émaillé d'incidents dans le stade de Vélodrome et après le match hors du stade Vélodrome. Alors ce matin, Michel est tout de même venu à la commanderie pour rencontrer ses joueurs, les réunir dans le vestiaire et leur expliquer la situation. Après, il a rencontré les salariés du club avec lesquels il travaillait, puis il est reparti dans sa voiture avec ses 3 adjoints espagnols. Depuis quelques heures, là, maintenant, c'est Franck Passy donc, qui dirige l'entraînement, car vous le savez, l'OM a toujours une demi-finale de Coupe de France à disputer demain soir face à Sochaux. Voilà pour le côté sportif. Et puis en coulisses, eh bien Margarita Louis-Dreyfus va publier un communiqué dans la soirée où elle va préciser que la piste Xavier Giocanti, un homme d'affaires marseillais qui avait été annoncé un temps pour organiser le tour de table pour les repreneurs de l'OM, eh bien que cette piste était totalement erronée. Voyez, les informations se succèdent. Mmh. Ça va vite à Marseille, mais ça va mal.
Et on a fait appel à une légende, hein, évidemment Jean-Louis Pacul, pour redresser peut-être le club pour ces derniers jours, parce qu'on est à 6 points quand même de la relégation à côté OM. C'est Basile Boli.
Oui, 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 Basile Boli, il n'était pas à l'entraînement là ce matin. Basile Boli, oui, qui avait été appelé à grand renfort pour essayer de remobiliser les troupes, de réinculquer aux joueurs marseillais cet amour du maillot, cette grinte à ouvrir les guillemets dont a besoin l'OM. Mais bon, pour le moment, on verra ce que ça va donner dès demain soir à Sochaux pour la demi-finale de Coupe de France.
Merci Jean-Louis Pacul. Alors, Michel évincé, qu'en pensent les supporters de l'OM? Étienne Boudu les a rencontrés.
Tant mieux, c'est une bonne chose. Ça nous fatigue à tous, les Marseillais, les supporters. Même ceux qui ne supportent pas Marseille, ça les fatigue parce que franchement, ils sont trop nuls en ce moment.
De le remplacer comme ça juste avant la demi-finale de la Coupe de France?
Peut-être un électrochoc au niveau des joueurs, sachant que c'est Franck Passy, j'ai bien compris, qui prend le relais jusqu'à la fin de la saison, soutenu par Basile Boli. Ça peut pas être pire là.
Il aurait dû rester chez lui, Michel.
Mais il n'y a pas que Michel qui aurait dû rester chez lui. Il y a la brune, la blonde et tout ce clique là. Moi, j'ai honte de dire à mon fils, j'ai supporté l'OM.
Alors, c'est Franck Passy qui va le remplacer. Alors, c'est
Passy,
pas un peu...
bien, c'est un ancien olympien. Pour moi, c'est une rustine. À Marseille, une rustine, c'est quand on crève un vélo, mais une rustine, c'est temporaire. Le temporaire, non, maintenant, il faut le cousin de Khalifa, ou j'en sais rien, mais il faut une concurrence à Paris.
Et ouais, il me faut, hein. J'adore cet accent.
Bon, allez, on peut en parler tous ensemble si vous inspire des grandes manœuvres à l'OM 32-10. La CGT fait-elle de la surenchère? Une affiche publiée par les salariés de l'information et de la communication du syndicat montre une matraque et un insigne de CRS près d'une flaque de sang avec ce titre. La police doit protéger les citoyens et non les frapper. C'est une allusion aux dernières violences en marge de la mobilisation contre la loi travail. Ce matin, Philippe Martinez s'est expliqué en marge du congrès de la CGT. Non seulement il soutient cette affiche, mais il s'en prend indirectement à Bernard Cazeneuve.
Ce que nous montrons du doigt, ce sont ceux qui donnent les ordres de taper sur les manifestants et non pas ceux qui appliquent les ordres. J'ai moi-même vécu ça en direct le 31 mars, où j'étais obligé d'évacuer une manifestation parce que les forces de police ont chargé le cortège.
Sur la forme, elle est violente cette affiche, on voit une flaque de sang sur un insigne de policier, ça vous choque?
Moi, ce qui m'a choqué, ce qui a choqué beaucoup l'opinion publique, c'est ces lycéens qui ont été matraqués. Donc nous, la Confédération, c'est bien ceux qui donnent les ordres que nous pointons du doigt, et donc il faut que ça s'arrête. Et c'est le message que nous renouvelons au premier de ceux qui donnent les ordres, c'est-à-dire au ministre de l'Intérieur.
C'est-à-dire Bernard Cazeneuve. Philippe Martinez avec Éric Vanier. Ce matin, à droite comme à gauche, d'Éric Ciotti à Jean-Christophe Cambadélis, les élus ont dénoncé une surenchère et une gauchisation de la CGT. On peut en débattre au 32-10.
Oui, le gouvernement pris en tenaille en même temps par la CGT et le MEDEF. Pierre Gattaz lance d'ailleurs ce matin un ultimatum, car il ne reconnaît plus le texte de la loi travail. Si rien ne bouge d'ici à la fin de l'examen à l'Assemblée mi-mai, il menace de quitter la table des négociations sur l'assurance chômage. C'est donc la surtaxation des CDD qui a pour lui été le coup de grâce, Philippe Rocotensin.
Oui, et pas seulement, le patron des patrons réclame le retrait du compte personnel d'activité et l'obligation pour les petites entreprises qui n'ont pas de syndicat de négocier avec un syndicaliste extérieur. Sinon, Pierre Gattaz annoncera dans 3 semaines, effectivement, qu'il se retire de la négociation sur l'assurance chômage, et c'est à prendre ou à laisser.
C'est juste, les gars, c'est comme ça. C'est-à-dire les employeurs que je représente.
Non, mais attendez, c'est, ça pose rien. Moi, je dis, écoutez, vous vouliez débloquer l'emploi pour ces communautés humaines d'entreprise, vous faites exactement l'inverse. Non seulement dans la balance, ils ont mis de la complexité, mais ils rajoutent 3 cailloux énormes.
Pierre Gattaz, dans le cas où la loi El Khomri reste en l'état, abandonnera non seulement la négociation sur l'assurance chômage destinée à enrayer son déficit, mais c'est aussi toutes les autres négociations. Et les petits patrons exigent aussi, dans une page de pub, une refonte du texte.
Philippe Rocotensin. Allez, on fait une pause avant de prendre la route avec prudence.
Il paraît qu'on est prudent de plus en plus. Bon, on va voir ça.
RTL Midi, Christelle Rebière, Christophe Paco.
RTL Midi, 12h42, et en pleine période de migration pour ces vacances de printemps, les automobilistes ne sont pas forcément rassurés. 41% des conducteurs se sentent en insécurité sur les routes nationales et les départementales. Résultat donc d'une enquête TNS Sofres pour AXA Prévention, 59% se plaignent même du manque d'entretien des routes, comme vous avez pu le constater en Gironde. Denis Grandjou.
Oui, Cyril Jimenez vient de garer son camion d'artisan dans une petite allée. Le décor semble idyllique, des vignes à perte de vue, des forêts. Mais pourtant, le danger est bien réel. Il vient de déposer deux plots rouges et blancs fluorescents au bord du goudron.
Je travaille en bord de route, j'ai ma signalisation personnelle, mais je ne peux pas dire à combien roulent les voitures, tout. Il n'y a pas un panneau, il n'y a rien du tout, quoi.
Chaque jour, il parcourt plusieurs dizaines de kilomètres sur les routes et les chemins départementaux.
Il n'y a aucun panneau qui indique tout ce qui est nid de poule, dos d'âne, touche du bois, parce que l'hiver, ça glisse énormément. Il y a des nids de poule partout. Je n'ai jamais eu d'accident, mais je pense que j'en ai évité déjà plusieurs.
Et à ce mauvais état quasi général, il faut ajouter un danger supplémentaire.
Moi, personnellement, je me bats depuis des années sur une départementale pour qu'il y ait un seul panneau indicateur à 10 km de chez moi pour éviter que les semis débarquent parce qu'ils ne passent pas sous un pont de chemin de fer. Et effectivement, on me renvoie boulet et j'ai aucune solution.
Il y a 3 mois, un automobiliste a été tué sur le coup à quelques kilomètres d'ici, juste à l'entrée d'un village. Une enquête de la gendarmerie est ouverte pour comprendre les causes de ce drame.
Denis Grandjoux, donc en Gironde, nous attendons vos témoignages bien sûr au 3210 et vous pourrez dialoguer après 13h avec le président d'AXA Prévention, c'est Eric Le Maire qui sera avec nous, puisque son enquête montre aussi que les conducteurs ont pourtant l'impression d'avoir une attitude de plus en plus exemplaire.
Nicolas Sarkozy pourrait-il être en campagne pour la présidentielle 2017 et continuer à bénéficier d'un traitement de faveur en tant qu'ancien chef de l'État? Le député apparenté socialiste René Dosière, qui traque régulièrement le gaspillage d'argent public, interpelle François Hollande sur ce thème. Ce qu'on sait, Dominique Tenza, c'est que l'ancien chef de l'État coûte 3 300 000 euros par an à la République.
Effectivement, alors même s'il faut bien distinguer deux choses, d'un côté sa sécurité, sa protection, 1 800 000 euros par an, et puis de l'autre, ses frais de personnel qui coûtent chaque année 1,5 million d'euros, chef de cabinet, assistant, secrétaire, chauffeur, logement de fonction. Et c'est ce poste de dépense que René Dosière met aujourd'hui en cause. Car tout ça, Nicolas Sarkozy, comme ses prédécesseurs, en bénéficie, sauf qu'il est, lui, revenu depuis un an et demi en politique. Ça ne vous aura pas échappé. Il est chef de l'opposition et manifestement, il n'entend pas le rester toute sa vie. D'où la question, peut-il être candidat et conserver tous ses avantages? Chez les Républicains, on insiste sur le fait qu'il sépare déjà aujourd'hui ses activités politiques du reste. Pour ses meetings, par exemple, il utilise la voiture du parti et non pas celle de l'État. C'est un faux procès, estime l'un de ses conseillers, qui ne mâche d'ailleurs pas ses mots lorsqu'il évoque René Dosière, un petit député, je cite, dont le seul titre de gloire est de se nourrir d'un populisme misérable. Rappelons que c'est ce même petit député qui avait dénoncé en 2007 l'attribution d'une carte bancaire de l'Élysée à Cécilia Sarkozy, qu'elle avait aussitôt rendue suite au tollé suscité. Autant dire qu'entre eux, le contentieux ne date pas d'hier.
Et puis on peut en débattre si vous le souhaitez au 3210. Merci Dominique.
Merci Dominique. Le contrôle continue à la place des bons vieux partiels. Les présidents d'université défendent ce système qui pourrait s'appliquer dès la première année de licence jusqu'au master, soit 5 ans après le bac. De quoi éviter le fameux bachotage qui, pour certains, ne sert à rien. Mais qu'en pensent les syndicats étudiants? Alexandre Leroy de Lafage y est favorable.
Aujourd'hui, à quoi sert l'évaluation à l'université? Pas grand-chose, parce qu'au final, on est encore sur cette vieille logique qui date du siècle dernier, si c'est pas de celui encore avant, qui est de dire on met un examen à la fin avec un rattrapage qui suscite le bachotage, mais ces examens-là, ils servent finalement à trier entre ceux qui passeront, ceux qui passeront pas. Donc on est plutôt d'accord avec ce que disent les présidents d'université. Permettre d'expérimenter le contrôle continu intégral, aujourd'hui, c'est intéressant. Nos équipes, dans plusieurs universités, notamment à Strasbourg et à Avignon, dans les 4 ou 6 dernières années, ont mené des expérimentations. Et on s'est rendu compte que ce contrôle continu intégral, il a permis, dans certaines licences, d'augmenter les taux de réussite de près de 20%. C'est énorme. Donc autant pouvoir l'expérimenter, parce que je le rappelle, c'est quand même dans l'intérêt premier des étudiants, parce que ça augmente le taux de réussite.
Alors vous êtes étudiant en pleine révision pour les partiels, faites une petite pause et appelez-nous au 3210 après 13h pour nous dire ce que vous en pensez.
Enfin, il s'appelle les Morgan de Luy, un groupe de fans de Renault, originaire du Nord. Figurez-vous qu'ils ont déjà réalisé une reprise de la chanson « Toujours debout » avec une particularité évidemment, ils chantent en ch'ti.
Ah oui.
Tout dit vivant, rassurez-vous, tout dit la banane.
Pour les connaisseurs apprécieront. La météo, Louis Baudin, il y a bien que les ch'tis qui auront un peu de nuages aujourd'hui.
Oui, un peu quand même. Aussi, auront du soleil cet après-midi, comme dans toutes les régions. Ce soleil qui, effectivement, sera parfois un peu occulté par quelques nuages au nord de la Seine. Mais ailleurs, ça sera du grand ciel bleu avec peu ou pas de nuages du tout. Un petit voile nuageux peut-être également sur les Pyrénées. Et puis un reste de mistral dans la vallée du Rhône. Avec ce soleil, les températures vont grimper cet après-midi. 14 à 18 degrés au moins dans la moitié nord, jusqu'à 19 à Nantes, par exemple. Et puis dans le sud, on sera entre 20 et 23 degrés à Agen.
et ça dure jusqu'à demain.
Demain, exactement. C'est demain tout. Sera la même chose avec un temps sec et très ensoleillé. Voile nuageux un peu plus épais quand même dans l'ouest, mais les températures grimperont encore. Demain, on frôlera les 20 degrés dans la moitié nord, enfin jusqu'à 25 dans le sud. Oui, mais vous avez raison, ça ne va pas durer. Dès jeudi, des averses vont revenir par l'ouest et le sud. Activité orageuse, notamment des Pyrénées au Massif central. Ça restera encore sec et lumineux de l'Île-de-France aux régions du nord et du nord-est. Il faudra en profiter parce que vendredi, ces pluies remonteront vers la moitié nord. Et puis pour ce week-end, ça se confirme.
Voilà,
refroidissement avec encore des averses, principalement dans la moitié est. Tel refroidissement d'ailleurs qu'entre dimanche et lundi, je vais sûrement vous reparler de neige à très basse altitude dans les régions de l'est. Donc c'est un petit coup de frais, je vais me dire coup de froid à partir du week-end.
N'importe quoi, merci.
Il n'y a plus de saison, on parlera du pollen tout à l'heure à 13h30, on parlera de votre comportement au volant juste après 13h et dans un instant, on va parler football. L'Olympique de Marseille est toujours en pleine tourmente et puis on va parler de nouveautés dans les stades de foot, pourquoi pas le retour d'une petite bière, vous savez, une petite mousse à la mi-temps. Avec modération, Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, sera avec nous dans une minute.
Christelle Rebière, Christophe Pacaud, l'invité de RTL Midi.
On va parler sport à 12h50, évidemment, puisqu'un nouveau rapport vient d'être remis sur le sport professionnel ce matin au Comité Olympique Français, avec plusieurs préconisations, comme par exemple, on en parlait tout à l'heure, le retour des boissons alcoolisées dans les stades. Avec nous, le secrétaire d'État au sport, justement, en direct du Mouvement Olympique et du Comité Olympique, Thierry Braillard, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Et juste une petite question tout de même sur l'actualité du jour, avant de parler des préconisations, notamment de cette vente d'alcool dans les stades. L'OM qui change d'entraîneur à quelques journées de la fin, qui est en phase d'être peut-être rattrapé par la zone rouge, ils n'ont que 6 points d'avance. Michel qui sort de là, que se passe-t-il à l'OM aujourd'hui qui est en vente? En plus, votre sentiment, Thierry Braillard?
Que vous avez un très bon représentant du monde footballistique, qui est Bixente Lizarazu, et qui, je crois, vous fera un commentaire extrêmement
sportif, oui, bien sûr,
sur ce sujet.
Non, mais sur l'OM en général, quoi. Après, maintenant, c'est plus une
rumeur. Je n'ai pas commenté les choix des clubs de choisir les entraîneurs et les joueurs.
Non, mais l'OM est en vente, en plus, Thierry Braillard.
Chacun doit rester à sa place, et chacun doit faire en sorte de répondre à son travail.
Thierry Braillard, donc vous avez organisé ce matin une grande conférence sur le sport professionnel français avec plusieurs préconisations pour être plus performant, la recherche de nouvelles recettes financières, le contrôle des agents de joueurs, le développement du sport féminin ou encore l'assouplissement de la loi Evin avec le retour au sein des enceintes sportives de boissons alcoolisées. Vous êtes vraiment favorable au retour de l'alcool dans les stades, Thierry Braillard ?
Donc déjà, merci de m'interroger sur cette grande conférence. 6 mois de travail, 150 auditions, 60 personnes parmi les groupes de travail à réfléchir et à travailler, 67 préconisations, des préconisations extrêmement importantes avec 3 thèmes majeurs qui sont la régulation du monde professionnel, la transparence des flux financiers et la recherche de la compétitivité des clubs français en Europe, car celle-ci aujourd'hui, c'est vrai, n'est pas au rendez-vous. Donc, de ces préconisations, différentes mesures. Bon, vous en retenez une, c'est le groupe de travail qui l'a soumise.
Oui.
Celle-ci, maintenant, va être discutée et travaillée.
Mais sur le principe, vous y êtes favorable. Est-ce que vous y êtes favorable sur le principe, Thierry Braillard ?
Si je peux me permettre, résumé, 6 mois de travail de 60 personnes en une préconisation, parce que parmi les 67 préconisations, il y a celle de dire qu'il verrait bien la vente d'alcool de catégorie 2 et 3 dans les stades. Très sincèrement, c'est un peu insultant vis-à-vis de tous ceux qui ont bien voulu donner bénévolement du temps pour ce travail.
On est quand même dans l'actualité, puisque samedi, Thierry Braillard.
Comme je ne veux pas écourter la question, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'a dit le groupe de travail, c'est une question qui se pose, puisque dans les stades, vous avez des endroits où on boit de l'alcool à volonté.
Dans les loges,
par exemple. Et puis, ceux qui sont dans les virages n'ont pas le droit d'en boire. Par contre, il suffit de sortir du stade et aux alentours, vous avez énormément de petits commerces qui vont en vendre. Donc tout cela est une des propositions pour dire, du groupe de travail, pour dire mieux vaut que ce soit le club qui bénéficie des recettes que quelqu'un d'autre. Alors après, s'il faut se poser de la question éthique de la vente d'alcool dans un stade, déjà, il faudra que dans les loges, il n'y en ait plus. Et puis peut-être éventuellement mettre des itélomètres à l'entrée du stade. Comme ça, au moins, on sera sûr qu'il n'y a pas de problème.
Thierry Braillard, ce qui nous a interpellé, c'est que la semaine dernière, on a appris par exemple que pour la finale de la Coupe de la Ligue ce samedi, la Ligue de football avait réussi à avoir une dérogation par Saint-Denis, par la ville de Saint-Denis, qui est évidemment la ville du Stade de France, pour pouvoir vendre dans l'enceinte des boissons alcoolisées, comme vous avez dit, niveau 2 et 3, comme de la bière, quoi.
Alors, aux dernières nouvelles, d'ailleurs, la ville de Saint-Denis vient de renoncer à donner cette autorisation. Par contre, il faut savoir que c'est la législation actuelle. La législation actuelle autorise la vente d'alcool dans les stades sous forme de dérogation du maire. Il a le droit à en donner 10 par an. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des matchs où vous allez avoir de l'alcool vendu. Je pense, quand on parle d'alcool, parlons de l'alcool, j'allais dire, de catégorie 2 à 3, c'est-à-dire de moins de 10 degrés, c'est-à-dire le cidre ou la bière. Donc, on en a la possibilité. Pour d'autres spectacles culturels, il n'y a pas de réserve. Là, on peut boire de l'alcool. Et donc, c'est pour ça que les groupes d'experts se sont interrogés sur cette question pour dire, pour aider la compétitivité des clubs français, pourquoi pas ne pas suivre l'exemple allemand où, par exemple, la vente de bière est autorisée dans les stades
sans passer bien,
par la dérogation du maire.
Et où ça se passe bien dans les stades.
Et où ça se passe bien.
Il y a moins de violence, peut-être aussi. Peut-être.
C'est une réflexion, en tout cas, qui a été portée par les groupes de travail. Mais comme je vous dis, il y a 67 préconisations. Donc, on pourrait aussi parler des 66 autres.
Notamment le sport féminin, comme on l'a évoqué, Christelle Robert, il y a quelques instants, où surveiller encore plus d'agents, ou la mise en place d'un centre de travail pour le cyclisme français. Hein. On a bien noté toutes ces préconisations, Thierry Braillard. Et Basile Boli à tête de l'OM, alors
Oui. Appelez
Vicente Lizarazu, j'ai bien compris.
Vicente Lizarazu aura un très bon commentaire, j'en suis certain.
Merci d'être venu jusqu'à nous, en tout cas, Thierry
Braillard.
Merci à vous.
Merci à vous, secrétaire d'État au sport.
Et cette histoire d'alcool dans les stades, ça fait réagir Jean-Louis qui est à Nice. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Oui, merci.
Alors, vous êtes commercial et vous travaillez dans le milieu de la bière, si je lis bien votre fiche.
Oui.
Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous devez vous en féliciter, a priori.
Oui, non, je ne m'en félicite pas. Je pense qu'on se voile la face, tout simplement. On n'a pas le droit de vendre de bière dans les stades. Par contre, on regarde la Champions League avec les cycles Heineken pendant tout le match.
C'est un petit peu ça aussi. Hein. C'est vrai que revenir peut-être des sponsors alcool, entre guillemets.
Déjà, alors, au niveau sponsoring, c'est énorme ce que les clubs français peuvent perdre. Le gouvernement qui cherche de l'argent, les taxes sur le sponsoring, c'est quand même eux qui les récupéraient. Donc là aussi, plutôt, c'est quand même beaucoup plus facile d'aller prendre des taxes là-dessus. Mais d'un autre côté, ça n'empêchera pas les gens de boire. Ceux qui ont envie de boire de l'alcool, ils iront dans la petite brasserie qui est à côté du stade et ils rentreront au stade pour boire de la bière.
Mais c'est ce qu'il faut aujourd'hui, sauf par exemple dans les grands stades comme le Parc des Princes, il est difficile de trouver de l'alcool à quoi, 1 km, 2 km à la ronde, selon la loi.
Parc des Princes peut-être, mais quand on est au Stade de France, je crois que la brasserie qui est à l'angle du Stade de France, elle vend de la Heineken et des gobelets de 50 centilitres. Et puis c'est le soir où, quand il y a un match de rugby, ils n'en passent que plus. Nous, l'OGC Nice, ici, ils ont droit à la bière sans alcool. Quand le RC Toulon vient, ils ont le droit de boire de la Carlsberg.
Encore une fois, il y a 10 dérogations par an.
Il y a 10 dérogations. Ouais. Mais de toute façon, le problème, il n'est pas là. C'est de savoir les dérogations, pas les dérogations. Le gouvernement cherche de l'argent. Ils vont récupérer quand même de l'argent plus facilement en autorisant cela. Et ce que je dis, on se voile la face de voir à la télévision, la Champions League, c'est Heineken, l'autre Coupe d'Europe, c'est Amstel, c'est le même groupe.
Oui, vous parlez d'Erg pour le championnat d'Europe, oui, d'accord.
Absolument. Merci Jean-Louis d'être intervenu sur RTL. Merci, bonne journée.
Vous allez nous parler de l'OM, hein, si vous voulez aussi. Avec une petite bière dans le stade, qui sait, le départ de Mitchell, 32-10, 3-2-1-0. Vous aurez la parole juste après 13h05.
RTL, il est 13h. Les auditeurs ont la parole. Christophe Paco, Christelle Rebière.
Et vous aurez la parole dans 5 minutes maintenant sur RTL. Nous prendrons la route avec vous tout d'abord. 41% des conducteurs se sentent en insécurité sur les nationales et sur les départementales. Et pourtant, les conducteurs que vous êtes jurent mieux conduire. Moins d'alcool au volant, moins de portables, moins d'excès de vitesse. Pour en parler avec vous au 3210, Éric Lemaire, président d'AXA Prévention, sera notre invité. C'est lui qui a commandé cette enquête à TNS Sofres.
Direction Marseille, où l'OM est en pleine crise. L'entraîneur Mitchell n'y aura même pas passé un an. Il a été remercié hier soir. Alors que le club est à 6 points de la relégation, remplacé par un duo de choc, Franck Passy, son adjoint, avec Basile Boli, nommé coordinateur sportif. Une conférence de presse a lieu en ce moment même au centre d'entraînement de l'OM, la Commanderie. Premier à commenter cette décision, le milieu de terrain Romain Alessandrini.
Bien sûr qu'on se sent responsable parce que c'est nous sur le terrain qui jouons et qui ont fait de mauvaises performances jusqu'à présent. Donc bien sûr qu'on a notre part de responsabilité. Il faut assumer ça aussi parce que c'est facile de faire partir quelqu'un, mais bien sûr que nous les joueurs, c'est un peu plus difficile à nous faire partir. Donc oui, on assume totalement. Après, voilà, il reste ces quelques matchs à jouer. Une demi-finale demain qui va être importante, mais surtout un championnat où on doit prendre ces trois points pour assurer cette place en Ligue 1, parce que on n'est pas à l'abri de descendre.
Voilà, premier commentaire de Romain Alessandrini. L'éviction de Mitchell, la vente de l'OM. Parlons-en au 32-10. L'ultimatum de Pierre Gattaz au gouvernement. Il ne reconnaît plus le projet de loi El Khomri. Le patron des patrons s'agace. Si rien ne bouge d'ici à la fin de l'examen du projet de loi travail à l'Assemblée, mi-mai, il menace de quitter la table des négociations sur l'assurance chômage qui sont en cours. Il demande le retrait du compte personnel d'activité et de la surtaxation des CDD. Les primaires à New York, capitale pour les futurs finalistes. Les électeurs ont commencé à voter. Hillary Clinton et Donald Trump espèrent conforter leur avance pour l'investiture de leur parti.
C'est un ennemi invisible qui risque de polluer votre journée malgré ce beau, ce chaud soleil, magnifique d'ailleurs. Alors comme il fait très beau, les pollens reviennent et prospèrent, en particulier ceux des bouleaux et des charmes dans l'est du pays et en Île-de-France. Un Français sur trois est allergique, d'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Mais comment maîtriser ces fameux éternuements en répétition et ces yeux qui piquent? Élodie Guillard.
Alors heureusement, la solution pour les allergiques, ce n'est pas de rester cloîtré chez soi pendant toute la période des pollens. Il existe aujourd'hui des traitements qui fonctionnent. Au quotidien, ce sont les antihistaminiques, en comprimé ou en spray pour le nez. La bonne nouvelle, c'est que ces médicaments se sont améliorés et ils font beaucoup moins dormir qu'avant. Cela soigne et diminue les symptômes désagréables, mais cela ne guérit pas. En revanche, sur le long terme, il y a la désensibilisation, utile surtout pour les allergies aux pollens et aux graminées. Le principe, c'est de réhabituer l'organisme à l'allergène, de réapprendre petit à petit au système immunitaire à devenir tolérant. Là aussi, c'est moins contraignant qu'avant, où il s'agissait surtout de piqûres. Cela peut se prendre sous forme de gouttes sous la langue. Bien sûr, il faut établir ce traitement avec un allergologue, mais en ce moment, ce n'est pas forcément la bonne période. Mieux vaut attendre la rentrée, septembre, octobre, où l'organisme est beaucoup moins exposé. En attendant, il y a des conseils tout simples à appliquer pour se protéger, comme porter des lunettes de soleil à l'extérieur, se brosser ou laver les cheveux avant de se coucher, ou encore rouler en voiture, les vitres fermées.
On attend vos témoignages, puis vos petits secrets de grand-mère. Comme le dit Guillard il y a quelques instants, toutes vos questions également au 3210, puisque vous pourrez dialoguer dès 13h30 avec Sophie Sylcré-Grieux, qui est médecin allergologue.
La météo, Louis Baudin, la journée est assez parfaite.
Oui, du beau temps pour tout le monde aujourd'hui, avec un temps sec et très ensoleillé partout. J'ai les images satellites sous les yeux, pas de précipitations, grand soleil. Alors quand même, il y aura un tout petit peu plus de nuages au nord de la Seine, mais sans conséquence. Petit voile nuageux également près des Pyrénées, puis il restera un petit peu de mistral dans la basse vallée du Rhône. Du coup, côté température, avec ce soleil omniprésent, elles vont grimper, elles seront en fin de saison, entre 14 et 16, voire 17 degrés dans la moitié nord. 17 degrés par exemple à Paris, on ira même jusqu'à 19 degrés du côté de Nantes, et puis dans le sud, sera encore plus élevé, entre 20 et 23 degrés, 23 degrés par exemple à Toulouse.
Merci Louis.